Vous écoutez RTL.
15h04 bientôt sur RTL. On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Bénédicte Tassar. Je suis persuadée que cette émission va vous intéresser, donc vous allez évidemment l'écouter et reprendre l'antenne.
Bien sûr,
à 16h
et à tout à l'heure.
Pour un prochain point sur l'actu, à tout à l'heure. Ça s'appelle l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et tout le monde en a peur. Mais de quoi s'agit-il en réalité? Quels sont les gestes à adopter? Peut-on les prévenir? Et quelles sont les recherches à ce jour? Toutes ces questions et plein d'autres encore, on va les poser à nos invités de cet après-midi. À tout de suite en direct sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. RTL est votre radio et on est fait pour s'entendre, votre rendez-vous préféré entre 15h et 16h. Soyez les bienvenus, nous sommes en direct des studios de la rue Bayard pendant une heure. Et c'est au 3210 et sur nos réseaux sociaux que vous pouvez poser toutes vos questions. Et je sais que vous en aurez aujourd'hui, car nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral. Chaque année, 150 000 personnes sont victimes d'un AVC dans notre pays. Si 80% survivent, la moitié garde toutefois un handicap. Alors peut-on se prémunir d'un AVC? Que faire en cas de symptômes? Pourra-t-on un jour en guérir complètement? On en parle avec nos invités. Sylvie Riomio, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de rubrique santé à Sciences et Avenir, partenaire de cette émission. Alors vous êtes penché en fait sur l'avenir. C'est clairement votre objectif à travers votre magazine.
Tout à fait. La recherche qui peut être aujourd'hui effectivement démarrée et appliquée pour permettre de mieux traiter les AVC.
Donc il y a de l'espoir.
Tout à fait.
Voilà, sur un sujet qui inquiète nos auditeurs. À vos côtés, le professeur Jean-Louis Mas. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes chef du service de neurologie et de l'unité neurovasculaire de l'hôpital Sainte-Anne. Vous êtes président de la Fondation pour la recherche sur les AVC, dont je donne l'adresse et vous la retrouverez sur nos réseaux sociaux: www.fondation-recherche-avc.org. Un message de Valérie qui nous est arrivé. Rien qu'entendre les lettres AVC me terrorise. Cela peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est inquiétant et je trouve que nous sommes mal informés sur ce sujet. Alors ça tombe bien puisque vous allez être avec nous jusqu'à 16h sur RTL. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui, n'importe quand?
Ah oui, l'accident vasculaire touche tous les âges. C'est plus fréquent chez les sujets âgés. On estime qu'il y a environ 50% des AVC qui surviennent après 75 ans. 50% donc avant, et 25% avant 60 ans, c'est-à-dire que ça peut toucher quelqu'un qui est en pleine activité professionnelle.
C'est quoi un AVC?
Alors on définit un accident vasculaire cérébral par une perte d'une ou plusieurs fonctions cérébrales, comme le langage, la motricité, la sensibilité, ou d'autres encore, en fonction du siège de l'accident, qui est dû soit à l'occlusion d'une artère, soit à la rupture d'une artère qui irrigue le cerveau.
D'accord.
L'occlusion d'une artère provoque un infarctus cérébral, c'est très similaire à ce qui se passe au niveau du myocarde, du cœur, avec une occlusion d'une artère coronaire. Et la rupture d'une artère provoque soit une hémorragie dans le cerveau, ce qu'on appelle une hémorragie cérébrale, soit une hémorragie autour du cerveau, dans les enveloppes qui entourent le cerveau, c'est-à-dire les méninges, et on appelle ça une hémorragie méningée.
Oui, vous vouliez rajouter
quelque
chose?
Non, simplement, dans la proportion de chacune de ces catégories est la suivante. On a 85% d'infarctus grossièrement et 15 à 20% d'hémorragie. Les plus rares sont les hémorragies méningées, sauf chez les sujets jeunes, chez qui cette proportion est plus importante que chez le sujet plus âgé.
Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait d'où ça vient, ça?
Les hémorragies méningées?
Oui, ou même l'AVC
L'AVC, oui. Alors, il y a... dans chacune de ces catégories, une longue liste de causes qui pourraient peut-être ennuyer vos auditeurs.
Je ne suis pas persuadée, mais on la déroulera jusqu'à 16h.
Au fur et à mesure, en tout cas des plus fréquentes. Et chacune de ces causes est généralement provoquée par des facteurs de risque, qui sont soit des facteurs de risque médicaux, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, l'hypercholestérolémie, ou encore des maladies qu'on peut dépister avant qu'elles ne provoquent quelque chose, comme la fibrillation atriale, cette contraction irrégulière des oreillettes. Et d'autre part, des facteurs de risque liés au style de vie.
À l'hygiène de vie, donc.
Oui.
Pas que le style, c'est l'hygiène,
c'est
quoi,
l'hygiène
clairement.
De vie, oui, c'est un mot plus agréable à dire. Le tabac, bien sûr, l'excès d'alcool, l'alimentation de type occidental... riche en graisse animale, riche en sel, riche en sucre, les sodas, on en parle beaucoup, et pauvre en aux fruits et légumes, la sédentarité qui est devenue un facteur de risque important et la conséquence un peu de tout ça, même s'il y a aussi des facteurs génétiques, l'obésité, la surcharge pondérale. Voilà des facteurs de risque dits liés au mode de vie ou à l'hygiène de vie, comme vous voulez, c'est la même idée.
On a l'impression que c'est un peu la loterie, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Sylvie, Ryumio. L'AVC, on a le sentiment que c'est de la loterie, on peut en mourir, on peut en sortir, on peut en sortir indemne, on peut en sortir handicapé.
Alors ce qui importe effectivement, c'est à tout prix l'urgence de la prise en charge et la précocité de celle-ci, d'où la nécessité de tout de suite contacter les unités responsables et, oui, et formées. Et donc, il y a un geste à savoir, c'est vraiment faire le 15 par rapport à donc, les signes qu'a évoqué le professeur Mas.
Alors, on va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant sur l'antenne d'RTL. Nous sommes en direct jusqu'à 16h. Vous pouvez poser toutes vos questions dans un instant. Yves va également témoigner de son AVC. C'était en 2011. Il va nous raconter justement quelles sont les conséquences de cet accident vasculaire cérébral. Et puis, on reviendra sur les symptômes. Parce que oui, effectivement, il faut appeler le 15, mais quels sont les symptômes et qu'est-ce qui doit nous alerter? On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL pour cette émission éminemment utile.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct sur RTL et aujourd'hui, nous vous proposons de nous intéresser à l'une de nos grandes angoisses, hein, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, en compagnie de nos invités que sont le professeur Jean-Louis Mas, à qui vous pouvez poser toutes vos questions, puisque on peut le dire, vous êtes un spécialiste, vous êtes président de la Fondation pour la recherche sur les AVC, et puis Sylvie Rioumillot, qui est chef de rubrique santé à Sciences et Avenir, qui consacre justement un article à cet avenir. On pourrait dire quelque part que on a des pistes aujourd'hui en termes de recherche médicale qui permettent de soigner finalement des AVC à travers l'oxygène.
Tout à fait. Et là, l'article en fait relate un travail qui a été initié par des chercheurs israéliens sur l'usage de la médecine hyperbare, celle, vous savez, les caissons dans lesquels les personnes qui font soit des accidents d'intoxication gaz carbonique
ou de plongée,
peuvent passer. On y administre de l'oxygène pur et des chercheurs se sont rendus compte que cet abord pouvait permettre de réveiller certaines zones du cerveau. Bon, ça reste encore très préliminaire, hein. Il ne s'agit absolument pas de conseiller cette approche aujourd'hui. On est vraiment dans le cadre de la recherche. Il se trouve qu'il y a une équipe niçoise qui travaille également sur le sujet. Les résultats sont intéressants parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de réveiller justement cette zone que les spécialistes appellent la zone de pénombre et dans laquelle des neurones qu'on croyait morts pourrait peut-être être réveillé justement, et peut-être par l'intermédiaire de l'oxygène ou d'autres substances, et c'est un petit peu donc là où la recherche s'exerce aujourd'hui.
La zone de pénombre, c'est une jolie façon d'expliquer que l'une des parties de notre cerveau s'éteint avec un AVC, hein, on peut le dire comme ça, professeur oui. Jean-Louis Mas, et du coup altère certaines fonctions comme les fonctions, alors pas vitales hein, en l'occurrence, enfin parfois vitales mais lorsqu'on en a des séquelles, c'est principalement moteur.
Alors si la zone de pénombre, on utilise ce terme surtout à la phase aiguë de l'infarctus cérébral, c'est-à-dire que quand il y a une occlusion artérielle hein, qui va provoquer un infarctus, il y a une zone généralement au centre de l'infarctus qui ne reçoit aucun apport sanguin et qui va très vite se nécroser, mourir, les neurones meurent. En revanche, autour de cette zone, il y a une zone qu'on appelle la zone de pénombre, qui reçoit suffisamment de sang pour que la survie cellulaire persiste, mais pas assez pour fonctionner. Et on appelait autrefois cette zone aussi la belle endormie. Vous voyez, on attendait que le prince charmant vienne la réveiller. C'était l'autre titre qui lui était donné pour bien montrer cette capacité. Si on apportait un apport sanguin suffisamment tôt, et en fait, on n'a que quelques heures pour apporter cet apport sanguin. 3-4 heures et demie pour le 3, la thrombolyse par voie intraveineuse, et puis un peu plus avec ce qu'on appelle maintenant la thrombectomie. Au-delà de ces délais, le bénéfice de ces traitements est très limité.
Voilà, d'où l'urgence, comme le disait il y a un instant Sylvie Rioumio, de réagir et d'appeler le SAMU. On reviendra sur les symptômes, mais en fait, on va en parler directement avec Yves. Bonjour Yves, soyez le bienvenu sur RTL.
Bonjour aux invités.
Merci d'être avec nous. Yves, vous avez 56 ans, vous habitez dans le Jura. Et alors vous, si on s'intéresse à l'AVC aujourd'hui, c'est que vous avez subi, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, est-ce qu'on fait un AVC ischémique? C'était en 2011. Quels sont les souvenirs que vous en gardez de cet accident, Yves?
Je me souviens, c'était un matin, pour partir prendre le train.
Oui.
Et mon cœur s'est vidé. Une sensation de cœur qui se vide. Et je suis tombé. et je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais que c'était un petit passage. Je ne me suis pas vu tomber. J'ai vu ma femme à quatre pattes sûrement en train de me donner des claques.
Pour et me vous dire étiez que conscient.
Pas. Mais je ne comprenais pas parce que on est conscient. Et je me dis mais attends, je vais me relever, t'inquiète pas. Et là, j'ai essayé de balancer ma jambe pour me relever, mais bien sûr, je ne me relevais pas parce que j'étais paralysé. Mais je ne me suis pas vu paralysé tout de suite. Je l'ai compris qu'une demi-heure plus tard.
Est-ce que c'est douloureux?
Non, du tout. Du tout.
Donc ça doit être...
C'est traumatisant parce que vous vous rendez compte de tout, de tout, de tout, de tout.
Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire, ça doit être absolument vertigineux et angoissant de sentir qu'on a le corps qui finalement prend le pas et déraille et on en est conscient sans pour autant en souffrir. Quoi. Donc on n'a pas des symptômes très clairs.
Tout à fait.
Cette angoisse, vous l'avez eue, à quel moment avez-vous réalisé que vous étiez clairement en danger?
Quand dans l'ambulance, j'ai une verrue sur ma main et j'ai vu l'infirmier qui me tenait la main et je ne le sentais pas et je voyais ma main qui et c'est là que j'ai compris que j'étais paralysé.
Votre visage était touché aussi?
Et je crois que ma bouche se paralysait, mais le temps d'arriver à l'hôpital et grâce à la thrombolyse, c'est parti assez vite. Et je commençais à me paralyser de la bouche.
Comment ça s'est passé à l'hôpital? Parce qu'on sent que la réaction a été très, très rapide de la part de votre femme.
Ma femme, puis ma fille était là, donc pour appeler les secours, ça s'est très vite fait. Donc j'étais à Dijon parce que le scanner de proche de chez moi était en panne. Et donc j'ai eu le temps de prier dans l'ascenseur pour ne pas être un légume. Donc ça a été fait. Et après, voilà, on vous branche.
Ouais.
Et vous êtes dans les urgences pendant 4 jours. J'ai su ça après, que pendant 4 jours, les médecins ne se pronostiquaient pas. Et donc, pour ma famille, pendant 4 jours, c'était le suspense. Donc, voilà.
Alors, on sent que vous avez la gorge prise, là, que l'émotion est en train de vous envahir. Mais ce que je vous propose, Yves, c'est qu'on va reprendre nos esprits tranquilles.
Mais ça va très bien, rassurez-vous.
Oui, oui. Non, non, mais je n'ai pas d'inquiétude, mais je me mets à votre place et je sais que quand on se retourne sur des moments compliqués et difficiles, et puis cette idée du compte à rebours aussi et de ne pas comprendre ce qui nous arrive, forcément, à un moment donné, ça nous replonge dans des émotions pas très agréables. Mais ce que je vous propose, Yves, si vous ne bougez pas, nous non plus. Donc, on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL et puis on va poursuivre votre témoignage et on demandera à nos invités de réagir. À tout de suite, Yves.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Il y a en France un AVC toutes les 4 minutes, 150 000 AVC chaque année. Il y a également 7 millions d'hypertendus en France et on reviendra avec nos invités aujourd'hui sur les causes, ou en tout cas les facteurs qui favorisent l'accident vasculaire cérébral. Un message de Guylaine, j'ai fait un AVC, rupture d'anévrisme à 41 ans, rééducation et après 6 ans d'efforts, je marche et je conduis. Je suis autonome, mon compagnon m'a soutenue et mes amis m'entourent beaucoup le matin. Je me réveille ravie d'être en vie. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Sylvie Rioumillot et du professeur Jean-Louis Mas qui sont nos invités et Yves est en ligne avec nous. Ça va Yves ?
Oui, ça va.
Bon, alors, bon Yves, allez, on y retourne en 2011,
on y retourne.
Si vous le voulez bien. On y retourne, vous avez eu votre accident vasculaire cérébral sur un quai, vous êtes tombé, votre épouse et votre fille étaient là, elles ont eu vraiment les bons réflexes, les secours sont arrivés très vite, vous avez eu conscience qu'il se passait quelque chose, mais vous n'étiez pas en mesure de le réaliser jusqu'au moment où vous êtes retrouvé, vous le disiez il y a un instant, dans l'ambulance qui allait à toute allure vers l'hôpital et que vous ne sentiez pas la main que votre main qui tenait celle de l'infirmier qui vous accompagnait. Comment ça s'est passé après? Alors, à quel moment est-ce qu'on vous a dit clairement on a diagnostiqué l'AVC?
Déjà dans l'ambulance, on me l'a dit. Hein, et donc après, j'ai dû passer scanner et là, le diagnostic est tombé. Mmh. Et je voulais dire, je ne sais pas si ça arrivera, je préfère le dire dans la discussion, j'ai eu beaucoup de chance déjà pour au moment de l'accident, mais dans les 4 premiers jours, j'ai eu la chance que mon médecin de l'entreprise vienne me voir et me certifie, alors que j'étais paralysé, moitié paralysé à 50 ans, puis vous pensez que tout est foutu, me dire, Yves, je te promets que tu referas les mêmes choses que tu faisais avant, que tu vas refaire la même chose que tu faisais avant. Et ça m'a beaucoup servi parce que je me suis projeté directement dans la rééducation en pensant qu'il allait y avoir un avenir meilleur après. Donc ça m'a beaucoup servi, ces paroles.
Voilà, on reviendra sur l'importance effectivement des mots lorsque l'on vit ce genre de choses. Alors du coup, vous avez passé 6 mois à l'hôpital.
Oui, bon, rééducation.
Bah oui, c'est ça. Donc vous vous êtes plongé à fond dans la rééducation. Où est-ce
que j'espérais, quoi, voyage, et je l'ai fait d'ailleurs, hein, revenir au travail, donc c'est mon ambition, et marcher normalement sans canne, et reconduire et revenir au travail. Donc mon travail c'était quoi, d'animer un syndicat, donc voilà, j'y suis retourné malgré tout, mais bon, j'ai bénéficié d'une invalidité deuxième catégorie, et quelques mois après, j'ai dû m'arrêter sur les conseils du même médecin qui me disait « Yves, souviens-toi par où t'es passé, parce que le stress risque de te tuer. » Donc du coup, j'ai dû lever le pied, j'ai mis le clignotant, donc depuis, je ne travaille plus.
D'accord.
Par contre, je m'occupe, pour avoir un lien social, je suis devenu conciliateur de justice, pour rendre un peu la société ce qu'elle me donne, voilà.
Très bien. Yves, vous avez des séquelles, malgré
oui,
tout.
Là, hein,
la vie d'avant n'est pas... Vous n'avez pas retrouvé votre vie d'avant.
Non. Les injections de toxines botuliques me font beaucoup bien pour ma marche, hein, donc j'arrive à faire des petites randonnées en me forçant, mais tout ce qui est spasticité et qui est gênant, et la fatigabilité qui peut me tomber dessus d'un moment à un autre. Donc ça, je peux pas le calculer, je peux pas dire tiens, je vais être fatigué cet après-midi, je vais faire une sieste, puis comme ça je pourrais le faire. Quand elle vous tombe dessus, donc ça vous empêche même des fois de travailler.
Vous voudriez dire à ceux qui nous écoutent qu'il ne faut jamais laisser tomber quand ça survient?
Jamais. Mon credo, c'est vivre la vie et on ne lâche rien. Je le dis à mes amis à chaque fois que je croise des personnes qui ont fait un AVC. Des fois, hélas, ben, ils repartent derrière. Donc voilà. Il faut rien lâcher. Et moi, je crois beaucoup à la rééducation. Bien sûr, je crois à la prévention, hein, ben, pour avoir été dans une association. Mais il ne faut rien lâcher la rééducation. Moi, 6 ans après, je continue d'aller chez le kiné. Je continue d'aller en balnéo toutes les semaines. Et voilà. Donc, et j'évolue petit à petit. Mais bien sûr, je mets j'avance pas à pas. Je veux pas faire des grands bonds. Donc voilà, au début, je voulais marcher. J'ai marché 20 mètres, après 500 mètres. Ouais. Maintenant, j'arrive à faire des randonnées de 10 km. Ça me suffit. Mais bon, il m'a fallu 6 ans pour en arriver là. Voilà.
Le temps est votre allié. Yves, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Dans un instant, on va rebondir sur tout ce que vous avez dit. Et puis moi, je vous embrasse. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses surtout. À bientôt, Yves, sur RTL. Au revoir.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Culture, service, humour, belle matinée sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci encore à Yves pour son témoignage bouleversant sur l'antenne d'RTL. Je me tourne vers vous, professeur Jean-Louis Mas. Vous me disiez il y a un instant, Yves a eu un discours hyper positif sur cette aventure assez dramatique.
Oh oui, il a presque tout dit d'ailleurs de l'histoire d'un accident vasculaire cérébral.
On va développer ensemble.
On va
si
développer,
vous voulez
oui,
dire,
oui, hein. Bien sûr. Je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il ne savait pas ce qui se passait. Il a été pris de court, hein, parce que l'accident vasculaire est extrêmement brutal. C'est même ce qui le définit. C'est la survenue d'une minute
très
à l'autre.
C'est soudain.
C'est très soudain. C'est l'artère qui s'occlut ou c'est l'artère qui se rompt. Donc, par définition. Et le terme ancien d'ailleurs était attaque cérébrale. Montre bien ce caractère soudain. Et ce qui est très important, c'est que la famille autour était prévenu a compris l'urgence et a appelé immédiatement les secours. Je pense qu'ils sont passés par le 15 comme ça devait se faire, et il doit dire merci à sa famille qui a permis qu'il ait une thrombolyse, et probablement qu'il ait récupéré plus qu'il n'aurait récupéré sans cette thrombolyse, puisque manifestement il a eu ce traitement pour déboucher l'artère assez précocement.
Alors, deux questions. Est-ce qu'il y a des symptômes quand même qui peuvent alerter? Vous nous dites que c'est soudain, mais est-ce qu'on se sent fatigué? Est-ce qu'on commence à avoir des vertiges? Ou est-ce que ça nous tombe dessus vraiment comme
ça? Non, vraiment, ça tombe dessus. Alors, il y a une variété d'accidents vasculaires qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires. C'est les mêmes symptômes, en quelque sorte. Hein,
oui.
Une paralysie, un trouble de la sensibilité, souvent la moitié du corps, des troubles du langage, ou bien des troubles de l'équilibre, enfin, mais quelque chose de brutal, et puis qui disparaît en 2-3 minutes. L'attitude, surtout à ce moment-là, c'est de faire la même chose que si ça persistait. C'est pas parce que les symptômes régressent, s'améliorent, voire disparaissent, qu'il faut être rassuré et dire j'en parlerai à mon médecin la prochaine fois que je le verrai. C'est la même chose, c'est un accident transitoire, mais qui a la même valeur.
Est-ce que, Sylvie Rioumiou, ce sont ce qu'on appelle des micro-AVC? On a des auditeurs qui nous disent, bah voilà, il paraît que parfois on fait des AVC qui passent inaperçus, comme Aurélie. À l'aube de mes 35 ans, j'ai fait un AVC. Suite à l'IRM, il s'est avéré que c'était le deuxième. Est-ce qu'on a parfois des trucs qui pètent comme ça dans le cerveau et qui sont ce qu'on appelle des micro-AVC?
Au niveau de petites artères, effectivement, il peut y avoir des mini-occlusions qui régressent. C'est une chance, et c'est ce que vient de dire le professeur Mas. Il ne faut surtout pas banaliser ces symptômes.
Voilà, donc on écoute ces symptômes, on file à l'hôpital, ou on appelle le 15 directement, ou alors ça c'est un message qu'on a reçu de la part d'Ingrid, et notez-le, une personne qui perd la parole suite à un AVC qui est seule, peut envoyer un SMS au 114. Cela permet d'être mise en relation avec les services d'urgence, SAMU, pompiers, etc., par l'écrit en SMS, donc c'est le 114, on ne le savait pas, et on vous remercie Ingrid pour cette information. Comment est-ce qu'on évalue la gravité d'un AVC, professeur Jean-Louis Mas? Est-ce que c'est justement ce temps entre l'accident et la prise en charge qui compte, ou est-ce qu'on peut faire effectivement des petits AVC, comme on peut en faire des très gros, voire des dramatiques à l'issue fatale?
Oui, on peut faire des AVC qui passent totalement inaperçus, tout simplement parce qu'ils sont dans des régions du cerveau peu parlantes. Les fonctions du cerveau sont réparties et puis il y a des régions du cerveau qui sont peu parlantes et donc un accident peut survenir sans qu'on s'en aperçoive. Et d'ailleurs, l'accumulation de ces petits accidents peut conduire à des troubles, des fonctions intellectuelles à terme. Mais ça, c'est un cas un peu particulier.
Mais l'évaluation de la gravité de l'AVC, ça se passe comment?
La gravité de l'AVC tient à... On la juge avec des scores lorsque le patient arrive dans une unité neurovasculaire, en fonction de l'importance du déficit, en fonction de la taille de l'infarctus, puisqu'il y a une très bonne corrélation entre l'importance du déficit et la taille de l'infarctus. Alors, vous parliez du délai tout à l'heure, bien sûr. Le délai est très important parce que c'est ce délai qui conditionne la possibilité de mettre en route les traitements actuels de désobstruction des artères, qui sont très efficaces. En particulier ceux qui sont apparus très récemment, qui permettent de désobstruer une artère de gros calibre. Vous savez, la thrombolyse, ce produit chimique pour déboucher les artères, est surtout efficace dans les artères.
C'est comme un desktop des artères.
Oui, c'est la même chose, sauf que c'est la thrombolyse. Mais la thrombectomie, là, consiste à aller chercher par voie endovasculaire, en passant par les artères, le caillot lui-même, et à le sortir, à le retirer.
D'accord.
Ça s'appelle la thrombectomie, qui complète la thrombolyse, qui se fait dans des cas d'occlusion relativement importants.
Très bien. Très bien. Dans un instant, on va poursuivre nos échanges. On va revenir quand même sur les risques, les facteurs de risque, ceux qui sont évitables, parce que tant qu'à faire, vous nous parliez de notre style de vie. On va peut-être remettre en question notre style de vie. On ne l'a pas abordé tout à l'heure avec Yves, on n'avait pas le temps, mais c'est vrai qu'il fait de l'apnée, il est en obésité morbide, de l'hypertension. Donc, c'était une personne qui déjà cumulait certains facteurs. Et on va y revenir avec vous. Ce sera tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL. RTL. On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Beaucoup de questions avant de prendre Philippe en ligne. C'était en 2011, lui aussi, son AVC. Nadine nous écrit « Mon père a fait deux AVC à cause de son cœur. Pas d'excès, pas d'alcool, pas de cigarette. Il mange pourtant bien. Est-ce que c'est héréditaire ?» Professeur Jean-Louis Mas.
Il y a, au sens héréditaire, au sens qu'on entend habituellement, c'est très rare. C'est-à-dire d'avoir une maladie qui se transmet et qui donne des AVC chez différentes personnes dans la famille, avec un gène, on appelle une maladie monogénique. Il y a une quarantaine de maladies qui sont toutes aussi rares les unes que les autres. En revanche, on peut trouver un facteur familial chez les patients qui ont fait un AVC, un autre membre de la famille qui en a fait un. Le fait d'avoir un membre de la famille qui a fait un AVC augmente un petit peu le risque, mais en définitive très peu. Et on ne connaît pas bien le mécanisme. Ça peut être par exemple la capacité à hériter d'un facteur de risque, ou ça peut être la façon dont on vit aussi avec des habitudes alimentaires qui ne sont pas bonnes.
Alors justement, parmi les facteurs de risque, il y a la tension. Magali nous dit que dans sa famille, tout le monde a de la tension. Oui. Elle est la seule à ne pas prendre de traitement. Est-ce qu'il y a-t-il plus de risques à ne pas prendre de traitement? En tout cas, la tension, ça se surveille. Et si vous êtes hypertendu, il faut consulter et bénéficier d'un traitement qui va écarter le risque.
Tout à fait. C'est un traitement extrêmement efficace pour prévenir la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Si elle ne prend pas de traitement, je suppose parce qu'elle n'est pas hypertendue. Sinon, il faut qu'elle ait une tension artérielle inférieure à 14,9. C'est vraiment la...
Très bien. 14,9, faut que ce soit inférieur. Évidemment, on l'aura compris. Donc, trop de tension, le diabète, le rythme cardiaque irrégulier.
C'est une cause fréquente d'infarctus cérébral chez le sujet d'âge moyen ou âgé. En plus, ce sont des infarctus qui sont particulièrement graves. Je pense que Yves a eu un problème de ce type-là. Je crois qu'il a parlé d'arythmie cardiaque. Et on peut le dépister avant. Lorsqu'on sent qu'on a des palpitations, pas hésiter à prendre son pouls ou en parler à son médecin, parce qu'il existe, pour le coup, des traitements très efficaces qui permettent la survenue d'un premier accident vasculaire cérébral. Mais souvent, on le découvre au moment de l'AVC. mais il y a des campagnes pour essayer de le découvrir avant.
Très bien, donc de la prévention. Les personnes qui ont déjà eu un AVC, bah évidemment, il y a le risque de récidive, le surpoids, le taux élevé de cholestérol, l'apnée du sommeil. Donc tout ça, ce sont des facteurs donc, qui favorisent hein, le risque d'AVC. Mais
qui sont liés d'ailleurs.
Voilà, et puis après, c'est une question d'hygiène de vie, quoi. Hein.
Oui, je crois
bon
que le tabac, bon, tout le monde le sait, hein, ne pas fumer, même le tabagisme passif est un facteur de risque, donc d'éviter dans des pièces où des personnes fument, je crois que c'est important. L'alcool, bon, les recommandations qui sont données, c'est moins de 14 verres standards.
Pour les hommes.
Pour les hommes et moins de 9 pour la femme par
semaine. Par semaine, on a bien d'accord, c'est pas par jour, on se comprend.
Par semaine.
Tout le monde est d'accord. La sédentarité, voilà. On se bouge, on préfère marcher, on préfère monter les escaliers que de prendre l'ascenseur.
Tout à fait, ça c'est un facteur de risque important. Et il y a eu un certain nombre d'enquêtes récemment, des enquêtes mondiales, qui ont montré que si on arrivait à contrôler 10 facteurs de risque, vous les avez pratiquement tous cités, on pourrait éviter jusqu'à 80-90% des accidents vasculaires cérébraux.
D'accord.
Mais il faut être parfait, hein, il faut ne pas fumer.
Ce qui n'est pas vraiment de ce monde. Néanmoins, on essaye de limiter.
Voilà, on peut tendre à la perfection.
Mais voilà, et gare à l'obésité, l'obésité d'ailleurs qui touche de plus en plus de jeunes en France. Donc attention, et on peut le dire aussi, il y a de plus en plus de jeunes, non pas de plus en plus de jeunes, mais les jeunes peuvent être touchés aussi.
Peuvent être touchés par un accident vasculaire cérébral, et vous avez raison, c'est-à-dire que l'incidence des accidents vasculaires cérébraux chez les sujets de moins de 55 ans, a augmenté récemment, probablement du fait de moins bonne prise en charge des facteurs de risque, l'augmentation de l'obésité, le diabète, ce qu'on appelle les binge drinking, c'est-à-dire les soirées...
Se saouler à toute vitesse.
Voilà, exactement, et puis la prise de drogues comme le cannabis, par exemple. Aussi.
Très bien. Bonjour Philippe, bienvenue sur RTL.
Bonjour. Merci.
Alors Philippe, vous, ça vous est arrivé le 22 octobre 2011. On ne sait toujours précisément quand ça nous est arrivé parce que c'est une date que l'on n'oublie pas, on l'aura bien compris. On va revenir, hein, si vous le voulez bien, parce qu'on a le temps file sur RTL, sur les symptômes et ce qui vous est arrivé. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes aussi engagé hein, dans votre guérison. Vous avez passé 15 jours en soins intensifs, 15 jours en chambre à l'hôpital. Vous aviez la jambe gauche qui était bloquée, douloureuse. Ouais. Aujourd'hui, vous n'avez plus de séquelles.
Aucune.
Donc ça, c'est important aussi de le dire, c'est possible.
Voilà. Ben, en fait, c'était le but de mon témoignage, c'était de rassurer, entre guillemets, de dire que c'est pas irrémédiable et que c'est pas parce qu'on fait une rupture d'anévrisme qu'on peut pas s'en relever et que la vie est finie. J'en suis la preuve vivante, je me suis relevé, j'ai pas de séquelles et je vis bien. Alors évidemment, j'entendais ce que vous disiez, j'ai arrêté le tabac, l'alcool, évidemment, effectivement, ça demande de reprendre une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, mais c'est pas irrémédiable.
Voilà, donc vous avez la pêche aujourd'hui et vous regardez l'avenir d'une façon sereine, mais vous surveillez évidemment, j'imagine.
Voilà, tout à fait. Bah oui, puisque bon, on sait jamais, c'est arrivé une fois, donc ça peut revenir, mais c'était aussi lié à l'hypertension, et aujourd'hui je soigne mon hypertension, donc j'ai plus de soucis particuliers.
Donc vous n'avez pas le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous arrivez à vivre normalement?
Alors au départ, juste après l'accident, effectivement, les moindres signes étaient angoissants. Le moindre mal de tête, ça fait peur. Mais on apprend à vivre avec. Et puis les signes s'estompent. Et je pense que c'est normal que juste après, il y a une embolisation. Donc l'embolisation, c'est quand même un corps. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Donc forcément, ça crée des dommages. Enfin, des dommages, des douleurs. Mais on s'y habitue. Et avec le temps, elle fuit. Donc effectivement, j'ai plus cette angoisse que j'avais juste après la sortie de me dire ça revient.
Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre témoignage. On voulait vous entendre parce que ça peut aussi bien se passer, même si ces moments-là sont difficiles. On vous embrasse, Philippe.
Ben, merci beaucoup.
Et plein de bonnes choses pour vous.
Merci.
À bientôt.
Merci beaucoup. À
Salut
bientôt,
Philippe,
avec plaisir. Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Philippe était en ligne avec nous il y a un instant. Professeur Jean-Louis Mas, Philippe, il a fait une rupture d'anévrisme, donc c'est une hémorragie méningée. Là, il y a des symptômes qui peuvent alerter?
Oui, alors le symptôme principal qui doit donner l'alerte, c'est une céphalée extrêmement brutale, extrêmement intense. Les personnes disent « j'ai jamais eu mal à la tête comme ça de ma vie ». On appelle ça des céphalées en coup de tonnerre. Et là, il ne faut pas réfléchir non plus, il faut appeler le 15.
Et là, c'est hyper rapide, c'est vraiment une question de temps aussi.
Oui, il faut vraiment aller très très vite, parce qu'il y a des traitements en plus très, très efficaces dont ce monsieur a bénéficié.
Philippe,
voilà, tout à fait. Et donc, c'est vraiment important. Alors, il ne faut pas appeler à chaque fois qu'on a un petit peu le mal de tête banal que nous avons tous.
Se rend compte de la gravité quand on le vit.
Oui, c'est vraiment la céphalée en coup de tonnerre. Alors, pas toujours, mais le plus souvent.
Très Très bien. Merci pour l'info, parce que tout ça, c'est toujours évidemment utile. En termes de traitement, quand on a été victime d'une rupture d'anévrisme ou d'un AVC comme celui que nous a décrit tout à l'heure notre auditeur Yves, toujours être sous surveillance, hein, évidemment. Oui. Ça nécessite, voilà. Est-ce que ça nécessite une prise de médicaments aussi ?
Ah, très généralement, oui. C'est-à-dire pour les... Généralement à vie, parce D'accord. qu'il y a d'une part le traitement de la cause, et puis il y a le traitement des facteurs de risque qui doit continuer. Et puis très généralement, pour les infarctus, il y a un traitement pour fluidifier le sang. Mmh. Il y a plusieurs variétés, c'est un peu long de rentrer dans le détail, mais l'idée c'est qu'il y a toujours un traitement derrière qu'il faut suivre, parce que les récidives sont pas rares.
Alors parlons de l'avenir avec Sylvie Rioux-Millot. Donc je rappelle, vous êtes chef de rubrique santé à Sciences et Avenir. Donc l'oxygène pourrait nous permettre de restaurer des parties abîmées.
Ça, c'est un travail qui a été initié par des Israéliens qui ont donc plongé, si je puis dire, les patients donc dans les fameux caissons, mais des plongées à sec, hein, donc où l'on respire un oxygène à 100% pur. Et ils se sont aperçus d'une meilleure récupération des patients. Le signe qui était intéressant dans cette étude, c'est que ces résultats sont apparus en fait plus de 36 mois après la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Et une fois que la récupération spontanée du cerveau avait eu lieu et que la kiné et tous les efforts de rééducation avaient été entrepris. Donc c'est tout l'intérêt de savoir que même à distance de l'AVC, on pourrait peut-être récupérer une fonction. Et la recherche aujourd'hui, elle cherche justement à gagner du temps et à anticiper sur au maximum. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver encore... Bon, il y a l'oxygène, mais il y a aussi des recherches sur d'autres molécules qui permettraient d'être plus actives. De toute manière, aujourd'hui, la thrombolyse, l'action chimique est couplée à la thrombectomie, qui est l'action mécanique. Les Américains ont une formule pour dire que « time is brain », c'est vraiment le temps et du cerveau, parce que les cellules du cerveau supportent très très mal le manque d'oxygène et il faut faire très très vite. D'où le 15, d'où le réseau d'urgence. Et la recherche va également dans cet axe.
Voilà, et donc des pistes pour l'avenir qui peuvent sur lesquelles on peut se reposer, professeur Jean-Louis Mas. J'imagine que votre fondation se penche aussi sur toutes ces pistes-là.
Tout à fait. Enfin, l'objectif de cette fondation, c'est d'accélérer la recherche, parce qu'on a, ce dont on a parlé au long de cette émission, sont des progrès thérapeutiques qui sont récents, en fait. Et on est vraiment sur une espèce de courbe exponentielle, et on a vraiment l'impression que si on met les moyens, on va trouver de plus en plus de traitements efficaces. C'est une raison pour laquelle on a créé la fondation, parce que les subventions qui existent pour la recherche actuellement sont insuffisantes.
Donc on peut faire des dons.
Donc on peut faire des dons, puisque la fondation, son objectif principal est de recueillir des dons pour financer des projets de recherche.
Très bien. Et je rappelle d'ailleurs que le 29 octobre prochain aura lieu la journée mondiale, la journée mondiale donc de l'AVC. On se retrouve tout de suite, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Je vous conseille, pour aller au-delà de nos échanges d'aujourd'hui et poursuivre vos connaissances, le magazine Science et Avenir, actuellement en kiosque, qui consacre justement un papier à l'avenir, donc des recherches au sujet de l'AVC. Merci beaucoup Sylvie Rioux-Millot d'avoir accepté notre invitation.
Merci
à bientôt sur RTL. Merci professeur Jean-Louis Mas pour vos éclairages qui nous ont forcément instruits aujourd'hui. Demain, on se retrouve sur RTL. On va parler d'un phénomène auquel nous sommes tous en train de succomber, ce sont les séries télé dont on est complètement addict. Bah pourquoi ? Réponse demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Riez bien, je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain.
Vous écoutez RTL.